Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Siège de Paris. Les Vikings entrent en scène car oui, au 9e siècle, les Vikings ont assiégé Paris et pas qu'une fois. Ah bon ? Ah bah oui, c'est Abon qui nous raconte cela. Abon de Saint-Germain-des-Prés, un moine qui dit avoir assisté aux événements. Abon, surnommé le Courbet. Mais plus que les autres, c'est bien le siège de Paris en 885 qui est resté dans les mémoires. Il a duré longtemps, presque 2 ans, avec la crainte qu'à cause des Vikings, il n'y ait vraiment plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Ça, c'est la Seine. Elle se déploie autour de cette île. Et sur cette île se trouve Paris. La ville est entourée de murs. Ils sont hauts et épais. Et il y a des tours de tous côtés.
Et comment entre-t-on dans cette ville ?
Je dirais que cette ville est une ville imprenable.
Imprenable, on va voir ça. Bonjour Bruno Dumézil.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Sorbonne, Sorbonne Université. Qu'est-ce que Paris au 9e siècle ? Ça ressemble à quoi ? C'est juste l'île de la cité ?
Oui, c'est l'île de la cité, et puis il y a quand même des petites choses. En rive gauche, vous avez déjà des grands monastères. Alors en haut de la montagne Sainte-Geneviève, il y a un établissement qu'on appelle les Saints Apôtres, et qu'on commence à appeler l'église Sainte-Geneviève. Et puis il y a Saint-Germain-des-Prés, une grande fondation mérovingienne, sans doute un des plus grands monastères, un des plus riches monastères d'Île-de-France. Puis du côté de Montmartre, il y a quelques petites églises, et puis en rive droite, il y a aussi quelques petites églises. Donc c'est l'île, et puis aussi cette banlieue qui commence à se développer, qui est une banlieue chrétienne.
Une banlieue chrétienne dans un monde qui est celui du 9e siècle. On en est où, Bruno Dumézil, politiquement ici ? Alors, Paris, par exemple, capitale, pas capitale ?
Bah non, pas capitale. Ça avait été capitale en 511. Clovis avait décidé d'en faire la capitale. Et puis, après l'hiver 511, ça n'a plus jamais été une véritable capitale. Mais c'est la plus grande ville du royaume. Donc, dans le monde carolingien, au 9e siècle, on a différents royaumes qui se structurent. Alors les royaumes durent généralement pas plus de 5 ou 10 ans, mais il y a des recompositions. Et au sein de ce qu'on appelle la Francie occidentale, qui est issue des partages entre les petits-fils de Charlemagne, on a quand même l'idée que Paris, c'est la plus grande ville du royaume. C'est la ville où Charles le Chauve est venu. C'est la ville où il y a aussi un grand évêque. L'évêque de Paris est puissant. C'est la ville où les aristocrates viennent aussi souvent. Et donc, c'est un point de convergence des richesses, des pouvoirs, de la culture aussi. Et donc, c'est quand même une très, très grosse ville du monde franc.
Et dans cette idée d'accumulation de richesses et de culture, on pense tout de suite aux abbayes. Donc, Saint-Germain-des-Prés à Paris. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce 9e siècle, les abbayes sont vraiment des lieux de concentration, de savoir, bien sûr, mais aussi de richesses?
Ah, de richesses, sans doute. Hein. Saint-Germain-des-Prés, on a l'inventaire de Saint-Germain-des-Prés pour le 9e siècle. Donc, on sait que Saint-Germain possède plus de 140 villages dans toute l'île de France. Donc, ici, ça fait beaucoup de choses. Ça fait du blé, ça fait de l'argent, ça fait du mouton. Hein. Et avec le mouton, on fait les fameux parchemins. C'est aussi pour ça que Saint-Germain-des-Prés, c'est un des plus grands scriptoriums, un des plus grands ateliers d'écriture. On y fait des magnifiques parchemins avec des représentations d'armées. Si on connaît l'armée carolingienne, c'est essentiellement par des psautiers carolingiens qui ont représenté le roi David ou Judas Maccabée comme étant des guerriers carolingiens.
Ah oui, 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 c'est l'importance de ces images que nous ont livrées l'ensemble de ces documents avec quand même ce moment carolingien. On a souvent une date de référence, c'est 800. Hein. C'est Charlemagne qui est sacré empereur. Bon, voilà. Mais cet empire de Charlemagne ne dure pas longtemps dans son unité. Très vite, il y a des divisions. C'est important de les comprendre, ces divisions, pour saisir le climat du 9e siècle, c'est-à-dire le moment où vont surgir les Vikings. Est-ce qu'on peut parler d'un royaume très divisé, d'un monde divisé?
Ah, le monde carolingien a toujours été divisé. Charlemagne n'a pratiquement jamais mis les pieds à Paris lui-même, hein, parce qu'il contrôlait très mal cette partie occidentale du royaume. Il avait envoyé sa sœur. Hein. C'était sa sœur qui contrôlait un grand monastère. Et puis, en 840, les petits-fils de Charlemagne se sont divisés le territoire. Le partage a été définitif en 843, et puis l'Empire est mort. Hein. Alors, bien sûr, il reste un empereur. Fictivement, il y a toujours eu un empereur. Le hasard a fait que les petits-fils de Charlemagne sont morts les uns après les autres. Les petits-fils de ces gens-là sont morts aussi. Et donc, il n'est resté de cette cinquième génération de Carolingiens qu'un seul homme. En 884, il n'y a plus qu'un seul Carolingien mâle et légitime à pouvoir occuper le trône. Donc, en 884, un peu par hasard, l'empire de Charlemagne a été réunifiée, recomposée. Alors, c'est totalement fictif, parce que cet homme qui s'appelle Charles le Gros, et comme son nom l'indique, il a un certain embonpoint, une certaine difficulté à se déplacer. Il est sans doute aussi atteint d'une maladie mentale. Il est lourdement dépressif. Il est courageux quand même, il va se porter sur tous les fronts, mais il contrôle très mal le territoire. En fait, il contrôle le gigantesque empire qui va de l'Italie jusqu'à la mer du Nord et qui va de l'Elbe jusqu'à l'Atlantique que parce que les aristocrates acceptent sa domination. Or, certains l'acceptent bien, c'est le cas en Germanie, puisqu'il est issu de Germanie. D'autres l'acceptent moins bien, et Charles le Gros ne mettra, pour ainsi dire, jamais les pieds en Francie occidentale, sauf le jour où une grande ville, Paris, sera menacée.
Et voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce siège de Paris. Nous sommes au 9e siècle. À quel moment surgissent les Vikings dans cette histoire occidentale ?
Alors, les dates sont difficiles à déterminer. Depuis le 8e siècle, il se passe des choses en Scandinavie. Alors, on le voit archéologiquement, on voit que les Scandinaves partent à l'assaut des régions du Sud. Assaut commercial, dans un premier temps, c'est une offensive commerciale, mais bientôt une offensive guerrière aussi, pour prendre des richesses, pour prendre des esclaves. Puis à partir de 789, là, on commence à avoir des opérations guerrières. 793, on a des pillages de monastères. Le monde franc est touché relativement tardivement, hein. Autour des années 800, Charlemagne développe une petite flottille pour protéger ses côtes, mais c'est pas très dangereux. Il faut attendre que le monde carolingien entre en crise, c'est-à-dire en guerre civile, pour que les Vikings, qui sont beaucoup plus des charognards que des prédateurs, profitent de la situation pour venir piller les côtes. Les années 830 et surtout 840 sont terribles pour le monde franc, à cause de la guerre civile, mais aussi parce que les Vikings attaquent les estuaires, pillent les monastères, pillent même les évêchés, ce qu'on n'avait jamais vu.
Oui, parce que quand on les voit apparaître, c'est pas tout de suite dans ce monde carolingien, c'est surtout dans ce qui est l'Angleterre actuelle, presque à la frontière avec l'Écosse en 793. Ils attaquent un monastère absolument sensationnel par les documents qu'il nous a livrés. C'est Lindisfarne, c'est tout en haut, tout au nord. Ils viennent d'où ces gens-là? Donc c'est toujours, j'utilise les noms de pays actuels, hein, la Suède, la Norvège, le Danemark.
Alors au début, oui, mais très rapidement, non, parce que comme ils viennent et qu'ils s'installent et qu'ils hivernent, ils passent un certain temps sur les côtes, sur les estuaires, ils fondent des petites villes, des petits ports, bah, rapidement on voit des Brito-Vikings, c'est-à-dire des gens qui sont des Vikings locaux, qui se sont parfois mariés, et puis sur le monde franc, on a aussi beaucoup de gens qui vont rejoindre les bandes Vikings, donc on est surpris quand on voit les bandes Vikings de rencontrer parfois des moines dans les bandes Vikings, donc un moine en rupture de ban qui s'est installé avec les Vikings, ou un fils de chef irlandais. Et quand on parlera du siège de Paris, on a des femmes irlandaises dans les bandes vikings qui ont rejoint l'équipe comme esclaves ou peut-être comme épouses de vikings. Donc il ne faut pas du tout imaginer des groupes de Scandinaves. Très rapidement, on est sur des groupes de pillards où l'identité ethnique n'est peut-être pas très claire.
Mais oui, mais qui sont ces Vikings ?
Rien ne les a poussés, simplement c'était des commerçants qui connaissaient toutes ces voies de déplacement sur le bout des doigts, qui avaient leurs itinéraires, qu'on connaît très bien, qui avaient fondé leur comptoir, qui avaient leurs agents. Je suis le premier à avoir attiré l'attention sur le fait que ils n'ont pas de problème linguistique, les Vikings. Or, le vieux norrois, croyez-moi sur parole, c'est une langue particulièrement difficile, n'est-ce pas ? Or, ils vont où vous voudrez, en Lituanie, en Espagne, en Grèce, ils n'ont pas de problème linguistique. Ils avaient donc des traducteurs sur place. Bon. Et puis alors, il faut insister avec vraiment toute la force requise, c'est leur fameux bateau. Leur bateau s'appelle Knörr, comme le potage, mais avec un tréma sur le haut en plus, n'est-ce pas, Knörr ? Ou bien Skeid, ou bien Birlingur, ou bien Snekka. Il a un tirant d'eau ridicule, il est monté à clin vif. Il se manœuvre à la voile et à la rame, il vire l'œuf pour l'œuf dans un rayon absolument ridicule. Il peut, en effet, il a un tirant d'eau tellement ridicule qu'il peut remonter dans une toute petite rivière ou traverser un océan, mais il a plusieurs défauts. D'abord, il ne remonte pas au vent. De plus, il embarque beaucoup d'eau puisqu'il est très très bas. Donc il faut imaginer, tant pis pour le romantisme, cher monsieur, il faut imaginer les Vikings passant le plus clair de leur temps à écoper.
Et ben voilà, ils écopent, c'est Régis Boyer, professeur de langue, littérature et civilisation scandinave à la Sorbonne, qui s'exprimait à propos. Alors, ici de plusieurs choses. Les Vikings, on l'a bien entendu, ce n'est pas un peuple, c'est un métier. C'est partir sur les mers, alors expédition commerciale et plus si affinité. Très bien, on a un autre élément intéressant, le mot drakkar n'est pas utilisé, c'est un mot qu'on utilise souvent pour désigner les navires des Vikings dans le dictionnaire, sans doute par métonymie, on dit oui, c'est le navire des Vikings. C'est plus complexe en fait.
Alors, bah, le mot drakkar, c'est un mot français. Hein. Vous ne le rencontrerez dans aucune autre langue, d'ailleurs pas en norvégien ou en danois. C'est les Français, dans les années 1840, qui se sont dit que c'est quand même embêtant. Le bateau viking n'a pas de nom, donc on va lui donner un nom un peu barbare. Drak, ça rappelle le dragon. Et on rajoute un deuxième K, un peu pour faire plus méchant. Donc oui, il y a un bateau viking dont on ne sait pas quel était le nom, puisqu'on a très peu de sources danoises, qui a des qualités, effectivement, qui est un des atouts de la puissance, mais comme l'a dit Régis Boyer, qui a à peu près autant de défauts que de qualités. Il est horriblement cher aussi. Hein. Pour partir en expédition viking, il faut des bateaux qui nécessitent parfois 40 000 heures de travail. Donc c'est toute une communauté qui travaille tout un hiver pour fabriquer un bateau. Alors ça laisse rêveur aussi sur les chiffres qu'on a parfois. Au moment du siège de Paris, on nous parle de 700 bateaux. Oula, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Ah oui.
Donc il y en a, ils sont très intéressants, ils vont permettre de remonter l'estuaire. Ça, effectivement, ça sera la force des Vikings. Par contre, en mer, c'est pas extraordinaire. Un drakkar, qu'on l'appelle drakkar ou pas drakkar. Bon, il faut penser quand même que beaucoup de Vikings se sont perdus. Beaucoup de Vikings ont fait des découvertes extraordinaires, ce qui montre qu'ils n'allaient pas du tout là où ils voulaient. Bon, je rappelle quand même que l'Amérique a été découverte par des Vikings qui, partant d'Islande, cherchaient à aller en Norvège. Ce qui laisse rêveur sur la capacité de déplacer ce type de bâtiment.
Oui, surtout sur la mer, hein, parce que la mer est un élément très très compliqué. Mais alors attention, sur les fleuves, là c'est complètement autre chose, parce que ces navires peuvent remonter, ils passent par l'estuaire, ils remontent le fleuve assez loin d'ailleurs.
Alors, ils peuvent remonter les fleuves, ils peuvent être portés exceptionnellement, pas les gros bateaux de guerre quand même, qui sont quand même lourds, mais on peut les faire rouler, donc il y a une possibilité de se déplacer. On peut les retourner rapidement ou ne pas les retourner, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avant et d'arrière sur un bateau viking. Là encore, il faut être très prudent, ce sont des bateaux qui permettent des raids, mais qui ne sont pas des bateaux de guerre. Hein. Lorsqu'il y aura des conflits sur la mer ou sur les fleuves entre une flotte guerrière occidentale et des bateaux vikings, ben les vikings perdent systématiquement. Donc c'est une série d'échecs à chaque fois qu'il y a des combats de type naval.
Bruno Dumézil, vous nous avez dit quelque chose moi qui m'interpelle. Vous avez dit qu'ils s'installaient parfois, parce que quand on parle de raids, on les imagine partir du Danemark, de Norvège, et puis d'arriver, de remonter le fleuve, de piller un monastère et de repartir. C'est pas comme ça vraiment que ça se passe.
Alors c'est comme ça au début, mais rapidement ils prennent conscience que ben on prend plusieurs mois pour descendre du Danemark ou de Norvège, et puis on fait un pillage et on repart. C'est pas très rentable tout ça. Mieux vaut avoir un port d'attache sur la côte ennemie, donc une île généralement, donc les îles dans l'embouchure de la Seine ou de la Loire. En Irlande, ça va être également des petites îles côtières. En Angleterre, ça va être la région d'York. Et donc, on parle d'hivernage parce que c'est un endroit où on passe deux ou trois hivers. Alors, parfois, le site est abandonné. Parfois, le site va durer et devenir une ville. Alors, il y a un site très important en Occident qui est une création viking, c'est Dublin. Dublin, c'est un site d'hivernage viking qui a duré et qui est devenu la première ville d'Irlande, puisque l'Irlande ne connaissait pas le phénomène urbain avant l'arrivée des vikings.
Et comment opèrent-ils ces vikings lors d'un raid? Là aussi, on imagine leur navire s'arrêter pas très loin du monastère, ils descendent, ils foncent, ils prennent et ils repartent. Est-ce que c'est toujours avec des combats?
Alors c'est parfois avec des combats, c'est vrai, il y a des combats, il y a des tueries. Hein. Le pillage de Lindisfarne, le premier pillage documenté, il y a eu des morts, il n'y a pas du tout de raison de le douter. Souvent les populations locales s'enfuient, donc les vikings jouent aussi la carte de la terreur. Hein. Donc l'idée que les populations vont abandonner leurs postes fortifiés. Et puis il faut aussi penser qu'ils repartent, mais pas très loin. Souvent le viking repart à 10 km. Arrive dans un marché et revend ses propres pillages. Quand vous pillez des vaches ou des sacs de sel, vous n'allez pas repartir en Scandinavie avec tout ça. Donc le commerce et le pillage peuvent avoir lieu à quelques distances l'un des autres. Ce qui veut dire qu'ils ont aussi des contacts. Et on sait qu'en Bretagne continentale, ils ont des points d'attache où ils peuvent revendre leurs marchandises.
Bruno Dumézil, vous avez préfacé la nouvelle traduction du siège de Paris par les Vikings. C'est ce texte du 9e siècle de ce moine. Ah bon, dont on va reparler, c'est publié par Anacharsis. Et ici, la question du vocabulaire se pose. On l'a bien dit pour le mot drakkar, invention française du 19e siècle, très bien, avec ces deux cas qui font peur. Le mot viking lui-même est-il utilisé par les contemporains?
Alors, il peut être utilisé en Angleterre, il est utilisé. Il est ponctuellement utilisé en Scandinavie, mais on n'a qu'une seule inscription runique où quelqu'un s'auto-définit comme viking. Viking, c'est quand même pirate. Hein. On ne va pas dire « je suis un pirate ». Et dans le monde franc, presque jamais. Donc, Abon ne parlera jamais de vikings. Il parle de Danois, il parle de païens, mais surtout, il parle de gens de gauche. Pour lui, les vikings, ce sont des gens de gauche.
Ah, expliquez-nous.
Ben parce que la gauche, c'est sinistère en latin, donc c'est le mauvais côté. Et comme les cartes médiévales ont le nord à gauche, bah, les Vikings viennent de la gauche. Et donc, pour Abon, c'est les gens de gauche qui ont attaqué Paris.
Voilà, ce sont des gens de mauvaise augure, ils arrivent du mauvais côté.
Oui, alors ça l'embête un peu, parce que il est moine de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés est quand même en rive gauche. Hein. Mais il est en train de faire un récit dans son siège de Paris pour dire, bon, globalement, c'est quand même plutôt la rive droite qui est à gauche, hein, parce que c'est là qu'il y a les Vikings. Et donc, il regarde depuis Saint-Germain-des-Prés vers l'île de la Cité. Il dit, bon, ah, les Vikings étaient tous sur la gauche.
Quand Abon écrit à la fin du IXe siècle son histoire, le siège de Paris, il dit l'avoir vu. Quelle idée a-t-il des Vikings? Est-ce qu'il est déjà héritier de traditions qui décrivent les Vikings comme des barbares?
Alors certainement, ça fait quand même 4 générations que les Vikings mettent le continent carolingien en coupe réglée. Donc il sait très bien comment les désigner. Il va les désigner notamment comme païens, tout en constatant un peu plus tard, bon, il y a quand même des chrétiens dans le lot. Donc c'est tellement habituel de parler de païens qu'on oublie qu'il y a quand même beaucoup de Vikings qui sont christianisés. Il va parler de barbares, il va montrer des choses qui n'existent peut-être pas, donc des techniques de combat qui lui rappellent des souvenirs très anciens. Alors évidemment, c'est le problème de tous ces textes qui décrivent les Vikings. Il y a une telle somme de stéréotypes qui sont attendus pour parler du Viking qu'entre le Viking littéraire et le Viking réel, on a parfois du mal. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui a vu des choses. Alors même si il fait une élaboration littéraire, c'est un poème, hein, donc c'est en vers, il est très content de sa réalisation, c'est très beau. Il va quand même nous dire des choses qui sont intéressantes, notamment la forte présence des femmes dans les bandes vikings. Pas comme combattantes, hein, mais pour faire la cuisine, tout simplement. Parce que là, vous avez une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui arrivent. Et ben, il y a une intendance qui est derrière. C'est pas simplement la bande d'hommes qui vient piller. Vous avez un groupe viking qui arrive et qui est capable de faire la cuisine. Parfois, du sanglier même est à la table des vikings.
Avec cette image très négative des vikings, bien sûr... n'est-elle pas profitable pour les Vikings eux-mêmes, au sens où quand ils arrivent quelque part, ils ont moins besoin de combattre, étant donné qu'on a très peur?
Alors le problème, c'est que c'est souvent ces textes littéraires qui nous donnent une vision très négative. Et en même temps, la première chose que nous dit Abon dans son récit, les Vikings arrivent en 885, ils vont immédiatement à la cathédrale de Paris, ils demandent un rendez-vous à l'évêque, et l'évêque les reçoit. Et il n'y a pas de problème, on se lance dans la discussion. Donc il y a un décalage entre cette peur qui est sans doute réelle, hein. On a des poèmes qui sont griffonnés sur des marges de manuscrits qui nous disent « l'hiver approche, tant mieux parce que les Vikings n'attaquent pas en hiver ». Donc bon, ça veut dire que la peur existe. Et en même temps, les Vikings, on les connaît, parce que les Vikings travaillent aussi comme mercenaires dans les armées carolingiennes. Donc ces gens-là ont parfois été des grands alliés pendant quelques années avant de revenir comme pillards.
Des grands alliés et puis des partenaires de commerce aussi.
Des partenaires de commerce, parfois des partenaires diplomatiques. Ces gens-là ont fait des accords avec les rois carolingiens, parfois des co-religionnaires. Beaucoup de chefs vikings sont déjà baptisés. Et puis parfois des cousins aussi, parce que les vikings commencent à se marier avec les aristocrates des pays qui mettent en coupe réglée. Et on sait qu'un tout petit peu plus tard, le fondateur du duché de Normandie, Roland, avait épousé une aristocrate franque. Donc ce sont à la fois des étrangers quand on veut les voir comme étrangers, et puis ce sont des protagonistes des querelles internes quand on préfère les avoir comme amis.
Voilà, c'est ça. Puis nous parlons du siège de Paris en 885. Ça, c'est une chose, mais les Vikings étaient déjà là bien avant.
À peu près, dans le cours d'une dizaine d'années, à l'extrême fin du 8e siècle, dans les années 790-800, on voit apparaître, avec des intentions offensives nullement dissimulées, des Vikings norvégiens sur la côte nord de l'Angleterre, sur la côte d'Irlande, du côté de la Vendée, des Vikings danois en territoire allemand, et vers la même époque, ça c'est l'archéologie qui nous l'enseigne, des Suédois, quand il s'agit de Suédois, on les appelle plutôt Varegs, mais ça revient exactement au même, se mettent à traverser de part en part l'immense continent russe pour finir par apparaître dans les années 835-840 dans les eaux de la mer Noire et de la mer Caspienne. Une simultanéité donc tout à fait extraordinaire et un phénomène auquel les contemporains n'ont d'abord absolument rien compris. Et ça a énormément facilité d'ailleurs le déclenchement du phénomène.
Historien Lucien Musset, spécialiste de l'histoire des Vikings et de la Normandie, qui s'exprimait en 1980 à propos de cette arrivée des Vikings. Alors nous sommes à la fin du 8e siècle quand il les identifie, et puis dans son propos, on l'entend bien, l'espace qui nous intéresse s'étend parce qu'on va jusqu'à la mer Caspienne, c'est un monde immense, celui visité par les Vikings.
Alors, c'est un monde immense, effectivement. C'est le monde des routes commerciales du Nord. Une route qui est essentiellement une route de commerce d'esclaves. L'idée, c'est qu'il y a des débouchés pour les esclaves du côté de Constantinople, de Bagdad ou du Khorassan, et qu'on peut aller capturer des esclaves sur les côtes franques, dans les îles britanniques, ou sur les côtes aussi de l'Allemagne actuelle ou de la Pologne actuelle. Donc il y a une grande route qui permet de faire transiter cette marchandise humaine. Et les Vikings, très tôt en fait, dès les années 750, vont prendre le contrôle d'une partie du circuit des fleuves russes en installant notamment dans la région du lac Ladoga des petits comptoirs commerciaux qui sont bien identifiés aujourd'hui. Puis ils vont fonder Kiev, bien sûr, qui sera une place forte varègue. Et évidemment, avoir la route aval, c'est intéressant, mais la route amont, c'est tout aussi intéressant. Il faut avoir des stocks d'esclaves à vendre. Et donc, ils vont essayer de piller de la marchandise humaine. Alors, c'est pour ça que le Viking est ambigu aujourd'hui. C'est un commerçant, mais il ne faut pas oublier ce qu'il commerce. Et donc, ces conflits et le siège de Paris, dont on va parler, sont aussi une façon de s'approvisionner en esclaves qu'on ira revendre dans la région de Stockholm, généralement, sur le lac Mälaren, avant de les expédier par le circuit des fleuves russes. Et ils finiront à Constantinople ou ils finiront à Bagdad.
Oui, il ne faut pas se limiter à l'idée qu'ils viennent payer les monastères et qu'ils prennent tous les objets religieux précieux en or. Ce n'est pas ça seulement qui les intéresse. Vous avez déjà cité du sel. Il peut y avoir donc les esclaves aussi. Ils prennent quoi, ces Vikings ?
À tout ce qui est précieux et facile à emporter. Une des premières cibles, c'est les armes. Parce que les armes scandinaves au 8e siècle ne valaient pas grand-chose. Donc ils ont besoin d'accéder à de l'armement de qualité, soit via du fer de provenance islamique, soit directement en volant ou en commerçant avec les francs et en obtenant des armes franques. Et donc les arsenaux sont parmi les premières cibles.
Et puis Paris est assiégé, bien sûr, et on cesse de le répéter en 885, parce qu'on a ce texte, ce poème admirable, « Le siège de Paris par les Vikings », rédigé par ce moine, ah bon, mais il y a plusieurs sièges de Paris au 9e siècle.
Alors ça a commencé dans les années 840, au début des années 840, Paris est mis à sac, puis après, dans les années 850, on a de nouvelles incursions, en 861... Nouveau raid qui est mentionné. Les moines de Saint-Germain-des-Prés, à chaque fois, ont fait mention de ces pillages parce qu'à chaque fois, leur saint, Saint-Germain, fait un miracle. Alors, pas forcément pour protéger la ville, mais on nous dit lors d'un siège, les Vikings sont arrivés, ils ont pillé le monastère. Mais miracle, quand on est revenu, ils n'avaient pas réussi à boire tout le vin. Donc, ils étaient descendus dans les celliers, mais Germain avait protégé un certain nombre de tonneaux. Donc, il y a eu des raids, mais à partir des années 860, le roi Charles le Chauve a fortifié la Seine. Et dans les années 860, la guerre civile carolingienne s'interrompt pendant une quinzaine d'années. Et donc là, les Vikings partent vers l'Angleterre et on ne verra pratiquement plus de raids menés sur la Seine. Et puis, lorsque la guerre civile réapparaît dans les années 880, les Vikings, qui ont été en partie chassés d'Angleterre parce qu'un roi fort est apparu, qui est Alfred le Grand, bien les Vikings viennent sur le continent avec des techniques de guerre qu'ils ont aussi apprises en Angleterre. C'est-à-dire, on n'a plus simplement des bandes, on a des rassemblements de bandes. C'est pour ça qu'on parle de grande armée viking. Et ce qui attaque Paris, c'est sûrement une grande armée.
Avec beaucoup de connaissances de ce qui se passe dans les pays qu'ils vont explorer, voire piller. On l'entend bien, ils savent ce qui se passe politiquement. Ils le constatent aussi, une armée bien formée et régulière fait beaucoup plus peur qu'une armée disparate. Mais ils sont au courant de ce qui se passe.
Alors, ils sont au courant, mais il faut penser que dans les années 880, le grand bras droit des rois francs de Paris s'appelle Siegfried. Il est fils du roi danois du Danemark, et l'homme qui va attaquer Paris en 885 s'appelle aussi Siegfried. On ne sait pas qui c'est exactement, mais il y a de bonnes raisons de penser que c'est un cousin. Et donc, en fait, les mêmes hommes qui travaillent comme mercenaires pour les Carolingiens sont ceux qui attaquent. Donc, évidemment, ils connaissent très bien, ils savent les points de rassemblement de richesses, ils connaissent les alliés, ils savent avec qui on peut discuter ou pas discuter. Donc, notamment, l'évêque de Paris est quelqu'un qui est abordable, donc il n'y aura pas de problème pour discuter avec lui. Ils savent aussi ce qu'on peut demander, les tribus qu'on pourra demander. Ils ne viennent pas vraiment obtenir du pillage. S'ils peuvent être payés, c'est tout aussi rentable. Et donc, ils vont très régulièrement essayer de demander des sommes, ce qu'on appelle le Dangeld, l'or des Danois, qui va leur permettre d'obtenir fortune et gloire. C'est aussi intéressant que des esclaves.
Et c'est aussi intéressant que des esclaves. Et pour obtenir un tribut, c'est vrai que parfois, simplement attendre sans combattre et menacer, c'est plus intéressant. Ça évite qu'il y ait des morts. Le premier siège de Paris par les Vikings, c'est en 845. «
Le roi Charles, le 29 mars 845, a convoqué l'ost, c'est-à-dire l'armée, en aval de Paris, tout près de Paris. Et ses éclaireurs lui signalent un événement tout à fait inhabituel. Une bonne centaine de barques, des barques avec des boucliers ronds accrochés aux côtés, avec en proue une espèce de figure de dragon menaçant. Des barques qu'on n'a jamais vues par ici. Remonte la Seine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le roi dit, surtout, n'attaquez pas. N'attaquez pas parce que nous n'en avons pas les moyens, ce sont des guerriers qui montent ces barques. On les voit là défiler, et les guerriers, eux non plus, n'attaquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mieux à faire que d'affronter l'armée royale. Ils voient là devant eux une ville à prendre, une ville qui n'a plus beaucoup de remparts. Les remparts de Paris, avec le temps, se sont un peu écroulés. C'est une ville sans défense, oui, c'est Paris, c'est de Paris qu'il s'agit. Ainsi, le jour de Pâques, Paris est prise, Paris est pillée, Paris est brûlée. Rien n'échappe, les monastères, les églises, tout, tout est pillé. Et qui sont ces barbares qui n'ont ni foi, ni loi, qui tuent les évêques, qui torturent les curés pour les obliger à livrer leur calice en or et les richesses de leur paroisse? On ne sait pas, leur dieu s'appelle Thor ou Odin. Leur roi, il s'appelle Knut le Grand. Ou Harold, aux beaux cheveux. Le chef qui commande leur aide, contre Paris, c'est un nommé Lodbrog. C'est un homme du Nord, c'est un Normand.
Un Normand, tiens, le nom a été prononcé, c'est Pierre Miquel, l'historien qui s'exprimait ici avec Bruno Dumézil. Ce nom de Normand, on peut le préciser parce que ça n'a pas été encore évoqué. Les hommes du Nord, ça aussi, c'est un mot que l'on voit pour qualifier ces Vikings.
Alors oui, c'est une façon de désigner l'origine géographique réelle de ces bandes. Effectivement, ça vient du Nord. Mais c'est aussi un mot qui a des connotations bibliques. Parce que dans l'Ancien Testament, le Nord, c'est de là que viendra la destruction. Dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse, qui reprend l'Ancien Testament, tout le mal viendra du Nord. Et donc, dire que ce sont les hommes du Nord, ben, ce sont les gens qui viennent du mauvais côté. Et là encore, ça a une petite résonance apocalyptique, encore que les Francs ne verront jamais dans les attaques des Normands les premiers signes de l'Apocalypse. Ça, il faudrait plutôt être en Irlande ou en Angleterre pour qu'on ait cette interprétation-là. Mais enfin, dire qu'ils viennent du Nord, c'est jamais gentil.
Voilà, dans la Bible bien sûr, dans Game of Thrones aussi, hein, c'est le Nord qui fait peur. Avec ce siège de Paris, dans l'évocation que Pierre Miquel nous faisait de Paris, il y a pour les fortifications de la ville, et on était en 845, les vestiges de ce que pouvaient être les fortifications qui dataient de quand, en fait, du monde romain.
De l'époque romaine, oui. Alors les Carolingiens avaient repris un peu ces fortifications. On sait que les ponts existaient, donc un pont sur la rive droite, enfin qui menait vers la rive droite, un pont qui menait vers la rive gauche, qui sont des ponts fortifiés avec des tours, avec des machines de siège. Par contre, les ponts amènent sur des rives qui sont, elles, peu fortifiées. Donc on va construire en urgence des tours pour tenir la tête des ponts. Et ces tours sont, nous dit-on, beaucoup moins solides, avec des fondations en pierre, mais essentiellement une construction en bois. Et les Vikings, assez sagement, ne vont pas attaquer la vieille muraille romaine, qui, même dégradée, reste encore assez imposante. Ils vont attaquer les ponts, hein, essayer de passer par les ponts.
Avec plusieurs sièges de Paris au IXe siècle, il y en a un en 856, un en 861. Quelle est l'organisation pensé par le pouvoir pour répondre à cette arrivée de Vikings? Est-ce qu'il y a peu à peu l'adaptation de l'effort pour contrer ces guerriers assez particuliers parce qu'ils arrivent par le fleuve?
Alors le problème, c'est que l'armée carolingienne n'est pas une armée permanente. L'armée carolingienne, c'est l'ost, on la convoque au printemps, généralement en mai, et puis elle disparaît en septembre ou octobre. Donc si les Vikings attaquent à un moment où l'ost n'est pas rassemblé, au début du printemps, difficile de contrer. L'autre difficulté, c'est que l'armée royale est commandée par le roi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas la diviser en théorie. Alors, tout l'enjeu des Carolingiens va être de faire de la défense opérationnelle du territoire avec une armée qui ne s'y prête pas du tout. Donc la solution, c'est de laisser des aristocrates, des comtes, des ducs, avoir des armées importantes, ce qui n'était pas du tout la tradition franque. Le risque, dans un contexte de guerre civile, c'est que si vous laissez ces gens-là avoir des troupes importantes, ils deviennent des protagonistes de la guerre civile. Ce qui va être le cas. Donc des rois intelligents vont jouer entre les deux tableaux, en faisant de la guerre royale et en laissant quelques pouvoirs. C'est le cas de Charles le Chauve, qui pendant 30 ans, va équilibrer les deux tendances. Et puis, après la mort de Charles le Chauve en 877, on se rend compte que ce sont les aristocrates qui assurent la défense du territoire. Donc on voit apparaître des points de fortification privés. Ce sont les premiers châteaux. Et puis, on voit apparaître des armées privées importantes. Et puis, on voit apparaître des réseaux d'aristocrates qui sont capables de s'accorder pour défendre des endroits qui semblent particulièrement importants pour eux, pas pour le royaume. Et tout l'enjeu du siège de Paris de 885, c'est que deux grandes familles aristocratiques ont des intérêts à Paris. Et donc, ce n'est pas tellement parce que c'est une capitale ou parce que c'est un lieu où il y a des grandes églises, c'est parce que la famille des Robertiens et la famille des Rorgonides ont envie de défendre cet endroit, parce que c'est un peu chez eux, beaucoup plus que chez le roi.
Ah oui, donc il y a vraiment des intérêts privés ici qui se mêlent aux intérêts du royaume. C'est intéressant parce que bien souvent, quand on a une lecture de l'arrivée des Vikings, on se dit il faut défendre le royaume. Non, on doit regarder ici à ce qui se passe au plus près des intérêts locaux.
Alors oui, parce que imaginez la situation en 885. Le roi est déjà malade, donc tous les aristocrates sont dans les starting blocks. Le roi n'a pas de fils, du moins pas de fils légitime. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis plus de 100 ans, la dévolution du trône est ouverte. Donc il suffirait de gagner de la gloire. Alors la gloire, ça s'obtient en triomphant des païens. Et on pourrait peut-être rêver à quelque chose. Et donc les deux grandes familles des Rorgonides et des Robertiens jouent aussi le trône dans cette affaire-là. Alors elles vont travailler ensemble pour le siège de Paris, mais le jour où le roi va vraiment mourir, que fera-t-on ? Et puis il y a d'autres familles qui se disent au contraire qu'on n'a rien à gagner. Et on sait notamment que la plus grande famille aristocratique du monde carolingien, les Welfs, qui seront là pendant très longtemps, on les appellera les Guelfes par la suite, et bon, ils sont encore vivants les Guelfes, hein. On les appelle les Hanovres aujourd'hui. Ben, eux ne voudront pas être présents parce qu'ils préfèrent jouer ailleurs. Ils se disent qu'il y a peut-être un trône à gagner en Bourgogne, et que Paris, c'est la Neustrie, c'est sans intérêt.
Avec ici ces rivalités entre les aristocrates, avec la crainte des Vikings, et puis avec ce siège de Paris, celui de 885 qui nous intéresse tant, et notamment parce qu'il y a un document sensationnel, Bruno Dumézil, que vous avez préfacé avec une nouvelle traduction, Le siège de Paris par les Vikings, une traduction d'Émilie Rouquette, et c'est maintenant pour nous le temps d'imaginer comment on fortifie une ville quand arrive les Vikings.
Hey, oh,
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La chanteuse, c'est Eivor, et le titre, c'est Trollabundin. Nous étions en 2005 et cette chanson nous conduit dans les îles Féroé, parce que les îles Féroé, bah là aussi, on avait des Vikings. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Jean-Guilain Mèche, nous nous intéressons au siège de Paris, celui de 885, Bruno Dumézil. On entend bien l'apparition des Vikings, c'est le 8e siècle, le 9e siècle, il y a de plus en plus de raids. Vous nous l'avez dit, quand la situation politique sur un territoire est fragile, les Vikings en profitent. Il y a malgré tout une interrogation. Pourquoi, à la fin du 8e siècle, au 9e siècle, organisent-ils des raids? Est-ce que, chez eux, il se passe quelque chose qui peut expliquer ces déplacements?
Alors oui, c'est passé quelque chose en Scandinavie, sans doute au début du 8e siècle. Autrefois, Scandinavie était composée de chefferies qui s'équilibraient toutes à peu près les unes les autres. Or, au 8e siècle, les routes commerciales méditerranéennes se reportent vers la mer du Nord. Donc imaginez la situation en Scandinavie, vous êtes un chef et vous voyez passer des bateaux avec des marchandises. Ben, un jour vous dites soit j'en profite, soit je pille. Et donc vous devenez viking. Donc le viking c'est à la fois le commerçant ou le pirate. Hein. Les deux activités sont honorables. Mais tous les chefs n'en profitent pas. Certains en profitent plus que d'autres. Ceux qui sont sur les côtes, ceux qui sont les plus opportunistes, ceux qui ont le plus de moyens à la base. Et donc on va avoir en Scandinavie un déséquilibre entre des familles qui deviennent très riches, qu'on commence à appeler des princes scandinaves, voire des rois scandinaves, et des familles qui sont en cours de déclassement. Les familles en cours de déclassement vont perdre leur lieu fortifié, leur hall, et vont devoir partir à l'aventure. Et donc ce sont souvent ces scandinaves déclassés qui deviennent les premiers vikings agressifs. Et les plus riches ne peuvent pas se laisser devancer par ces familles déclassées qui risquent à leur tour de s'enrichir. Et donc aujourd'hui l'hypothèse pour comprendre le début du phénomène viking, c'est cet emballement. Tout le monde a besoin de fortune et gloire. Et pour éviter de se faire dépasser, on devient viking, on va le plus loin possible. Alors si on a les moyens, on va à Constantinople. Si on a un peu moins de moyens, on va dans les îles britanniques. Si on est le dernier de la bande, on va en Islande, dans les îles Féroé. Je suis désolé pour les habitants des îles Féroé. Mais évidemment, aller élever des moutons dans les îles Féroé, c'est le nom. Féroé, ça veut dire l'île aux moutons. Hein. Bah, c'est peut-être un peu moins prestigieux que d'aller attaquer Paris en 885. Mais alors, c'est la même idée.
C'est la même idée, hein. C'est ce même mouvement-là. En 885... À Paris, il y a un témoin, un moine de Saint-Germain-des-Prés. Ah bon, que sait-on de cet homme-là?
Pas grand-chose, si ce n'est qu'il est très jeune. Lorsqu'il écrit son œuvre, il a sans doute une vingtaine d'années. Il est très scolaire. On dirait aujourd'hui qu'il sort de classe préparatoire. Il nous fait un plan en trois parties. Enfin, il annonce trois parties. Il dit, bon, ben, première partie, je vais vous raconter le siège de Paris. Deuxième partie, le siège de Paris, mais j'ai pas de quoi remplir. Et donc, je vais vous raconter quelques petites choses après. Et troisième partie, je sais plus trop quoi faire. Je vais vous donner des conseils et vous faire une liste de vocabulaire intéressante. S'il m'avait fait un plan comme ça, moi, je lui aurais mis 6. Mais comme il nous a laissé l'œuvre, on va pas se plaindre. Il a quand même laissé un long poème de plusieurs milliers de vers.
Oui, et puis il y a une démarche qui est très intéressante dans ce poème, parce que ce n'est pas simplement la narration de ce qui s'est passé, il y a une volonté de donner des indications grammaticales.
Ah oui, on a l'impression de lire un petit classique de notre enfance, avec toutes les figures de style qui sont notées en marge, de sa propre main. Parce que l'œuvre n'a eu aucun succès. Hein. On a le manuscrit d'Abon, écrit par la plume d'Abon. Et donc quand il fait une métaphore, il écrit en gros, en marge et en majuscule, métaphore. Quand il fait une métonymie, il le fait. Et il décide de faire toutes les figures de style possibles. Donc même les plus improbables, la tmèse en latin. La tmèse, ça consiste à couper un mot et de mettre un morceau du mot au début du vers, l'autre morceau à la fin du vers. Il met une tmèse, il est très fier, et il met même la définition. Donc c'est très bien comme œuvre. On a les notes. Et parfois, quand son texte n'est pas clair, il le dit. Je suis pas clair, mais voilà ce que j'ai voulu dire.
C'est quoi la matérialité de ce document? C'est grand, c'est imposant?
C'est pas très grand, c'est pas de très bonne qualité. Il y a des trous hein, dans le manuscrit. C'est un manuscrit scolaire. Alors, c'est très émouvant parce que c'est vraiment ce qu'il veut faire. C'est un manuscrit scolaire, c'est pour apprendre aux petits moines toutes les figures de style qui peuvent exister. Et alors, ce qui est le plus émouvant, c'est qu'il veut aussi leur apprendre le grec. Donc l'œuvre est écrite en latin, mais il veut leur apprendre à compter en grec. Donc il ne dit pas qu'il y a 700 bateaux en latin, il dit qu'il y a 700 bateaux vikings, mais en grec, en expliquant comment on compte en grec et en faisant des digressions intéressantes pour savoir si en grec, les chiffres sont masculins, féminins ou neutres, parce que lui n'en est pas tout à fait sûr.
Est-ce que l'on peut lui faire confiance quand il dit qu'il a été témoin des événements?
Sans doute, parce qu'il donne quand même des informations de première main. Il est témoine de Saint-Germain-des-Prés. On sait que la communauté de Saint-Germain-des-Prés, donc qui est en rive gauche, s'était réfugiée sur l'île de la Cité. Il a vu des choses. Mais après, il a tellement lu d'épopées. Il a lu l'Énéide de Virgile. Il a lu les épopées carolingiennes. Il a tellement cette pensée qu'il faut mettre des épithètes comme Homère. Donc, il va dire un tel à la longue épée, etc. Que, bah, évidemment, il y a un écart entre son observation réelle, qui est souvent très précieuse, et puis sa langue, qui est aussi très intéressante, parce qu'il nous fait quelque chose qui est hors du commun. Il fait plein de blagues. Et... le réel est entre les deux, et on a un peu de mal à savoir exactement ce qui est vrai dans ce qu'il dit. Les chiffres, à mon avis, sont faux. Les détails du siège, les dates, elles sont vraies. La peur, elle est vraie. Hein. Il a connu la peur, il était à l'intérieur des murailles. Mais quand il nous dit que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés a tiré une flèche et qu'il a réussi à embrocher 6 vikings et qu'il a demandé ensuite qu'on amène les broches pour pouvoir cuire tout ça, ça, c'est peu vraisemblable.
Et donc les 700 navires, c'est un peu trop.
700 navires, ça fait beaucoup, surtout qu'il dit qu'à côté, il y avait des barques. Donc bon, ça ferait une armée de 30 000 hommes. Hein. Ça fait vraiment beaucoup, ça pose des problèmes tout simplement de ravitaillement. Plusieurs milliers d'hommes et sans doute plus de 10 000 hommes, c'est vraisemblable parce que c'est pas une petite pilasse forte hein, quand même Paris. Pour pouvoir assiéger efficacement, il y a plusieurs dizaines de milliers d'hommes. De la cavalerie, c'est aussi intéressant de dire que les vikings arrivent avec leurs chevaux. Hein. On n'est plus au début des raids vikings. Désormais, ils ont des bases d'hivernage et ils ont sûrement des haras qui leur permettent de développer une cavalerie efficace.
Les vikings attaquent.
Il recouvre le champ d'épée, la scène de boucliers. Et contre la ville, volent en une pluie très dense 1000 grenades de plomb fondu. Et les ponts entrelacent tours de guet et puissantes balistes. Mars, de tous côtés, se lève et se déchaîne et règne avec superbe. De toutes les églises, le concave métal en mugissant remplit d'affligeantes clameurs les airs jusque la vide. La citadelle oscille, les citoyens tremblent. Et l'immense voix de la foule résonne. Et la peur pénètre dans chacun, en même temps que dans les tours. Là, brillaient de nombreux nobles et de nombreux hommes valeureux. L'évêque Gauzelin était au premier rang de tous. Il avait avec lui son neveu Aible, le martial abbé. Là se trouvaient Robert, Eudes, Régnier, Hutton et Rilan, tous des comtes. Mais le plus noble était Eudes, qui tua autant de Danois qu'il envoya de flèches. Le funeste peuple combat. Le peuple béni lutte.
Dans une certaine mesure, nous sommes à votre merci, comte Audon. C'est pour cela que vous devez nous protéger de ces païens.
Votre Majesté, il est encore temps pour vous de quitter la ville. Beaucoup ici vous conseillent vivement de sauver votre vie.
Daniel Koenigsberg qui lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture un extrait de ce texte qui raconte le siège de Paris par les Vikings en 885, un siège du moine Abon, avec Bruno Dumézil, un point chronologique important. 885, c'est le début du siège, il dure jusqu'en 887. À quel moment Abon écrit-il son texte ?
Plus tard, sûrement au milieu des années 890 et plusieurs étapes de rédaction sont présentes. Donc il a sûrement écrit la première version juste après que Eudes, le comte de Paris, celui qui a assuré la défense, soit devenu roi en 888. Alors là, c'est le premier livre, tout va bien. Eudes est un courageux comte, nous dit-on, aidé par Gauzelin, le bouillant abbé. Et puis après, ces deux familles, les Robertiens et les Rogonites, se sont fâchés. Et Eudes a tué ses anciens alliés. En 892, le martial abbé dont on entend parler, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, est tué par le roi. Et là, le poème commence à devenir un peu plus hésitant. Et puis la fin du règne d'Eudes, puisque Eudes va régner jusqu'en 898, est très difficile. Hein. Là, il y a des concurrences, les Carolingiens essaient de reprendre le pouvoir. Et le poème devient extrêmement hésitant à la fin, en disant que Eudes a des qualités, mais enfin énormément de défauts. Et les derniers vers sont terribles, en nous disant que Eudes ne fait plus rien contre les Vikings et qu'il est sodomite. Ça fait beaucoup quand même, hein, parce qu'il n'a pas eu d'enfant et donc il y a une accusation qui est lourde sur la moralité d'Eudes de la part d'un moine de Saint-Germain. Donc en fait, c'est aussi pour ça que l'œuvre n'a pas du tout trouvé son lectorat. Bah oui. C'est trop composite et puis on ne sait pas du tout où il veut aller, lui non plus, vraisemblablement.
Heureusement que vous êtes là, Bruno Dumézil, pour nous éclairer avec un deuxième point sur la chronologie, parce que quand on entend une attaque comme ça, et bien souvent on l'imagine ainsi, l'attaque soudaine qui va durer la journée. Mais quand on regarde les dates, ce siège dure 2 ans.
Oui, pratiquement 2 ans, mais pas de façon continue. On a 1 an où les Vikings sont effectivement sous les murailles, en rive droite principalement. Il y aura quelques attaques en rive gauche, mais principalement en rive droite. Mais ça veut dire que le ravitaillement de la ville est possible aussi. Hein. On n'est pas dans une ville qui meurt de faim. Les Vikings ne sont pas assez nombreux pour bloquer complètement la ville, du moins pas sur une longue durée. Il faut aussi imaginer qu'il soit 10 000 Vikings. Ils mangent quoi pendant 1 an? Donc il va falloir aller packager dans l'arrière-pays et ils vont transformer les abbayes des environs, donc l'église Saint-Gervais en rive droite, Saint-Germain-des-Prés aussi en rive gauche, en cantine, parce qu'ils s'installent là et ils vont cuisiner les veaux et les vaches qu'ils ont essayé de récupérer. Mais même avec tout ça, ce sont plutôt les assiégeants qui risquent de crever de faim plutôt que les assiégés. Et donc, ça ne peut pas durer sur une très longue durée. Donc il y a des combats et puis il y a des discussions. On bavasse à peu près autant qu'on se bat dans le poème parce qu'on est en train d'essayer de négocier un tribut qui soit raisonnable.
Alors qui sont les protagonistes? Est-ce que l'on arrive facilement à identifier qui sont ces Vikings? D'où viennent-ils? Est-ce que ils sont danois? C'est ce que l'on entend dans le texte d'Abon, mais est-ce qu'on sait d'où ils viennent?
Alors non, on ne sait pas. On a 2 noms de Vikings sur l'ensemble du poème. Le chef qui s'appelle Siegfried, dont on nous dit qu'il était un roi sans royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc un roi de la flotte, un chef désigné par l'armée, et qu'Abon apprécie. Nous disons qu'il a quand même pas mal de qualités, on peut discuter avec lui, sa parole est fiable, parce qu'effectivement, à la fin, lui va accepter de repartir. Et un certain Sinric, qui est un chef de bande. Donc il faut imaginer qu'il y ait une agglutination d'une 15aine ou 20aine de bandes, chacun gardant son propre chef. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'armée viking, on bavasse aussi en permanence pour savoir si on maintient le siège ou pas. Et qu'en bout de course, ce qui va permettre de lever le siège, c'est qu'on va payer une partie de l'armée viking, mais pas l'autre, et qu'on va donc diviser la grande armée viking.
Et puis, de l'autre côté, du côté des assiégés, il y a des noms qui ont déjà été évoqués. Il y a Eudes, comte de Paris.
Alors Eudes, comte de Paris, son père avait été abbé de Saint-Martin de Tours, comte de Tours, comte de Paris aussi. C'était le grand Robert le Fort, mort en héros à Brie-de-Sarthe en 866. Eudes, c'est quelqu'un qui est dans une position un peu de faiblesse. Il n'a pas réussi à récupérer le comté familial au début de sa vie. Il l'a obtenu là, juste au milieu des années 880. Il veut démontrer quelque chose. Et donc, il va mettre tout ce qu'il peut dans la défense de Paris pour d'abord démontrer sa vaillance militaire et puis, comme il rêve du trône, pour essayer d'avoir le trône. Mais on oublie aussi toutes les autres familles. Et on a entendu dans le poème d'Abon tous ces noms qui sont cités. Parce qu'Abon ne sait pas trop qui va gagner en bout de course dans ce conflit qui est aussi un conflit interne à la noblesse franque. Est-ce que c'est les Carolingiens? Est-ce que c'est les Welfs? Est-ce que c'est les Robertiens? Est-ce que c'est les Rorgonides? Il y a 30aine de grandes familles qui sont là. Donc il y a un petit côté Game of Thrones aussi. Tout le monde se bat contre les gens du Nord, mais enfin tout le monde se bat aussi pour essayer de récupérer le trône de fer.
Voilà, parce que ici, tant d'enjeux se jouent à Paris en 885 et ce n'est pas seulement repousser les Vikings, on l'entend bien, il y a ces rivalités à l'intérieur du monde franc. Les Vikings assiègent Paris, mais de l'huile.
Roland ! Roland ! Contre d'eau ! Ils arrivent ! Dis aux hommes de ne gaspiller aucune flèche, de ne tirer que lorsqu'ils seront proches. Oui, quoi qu'il advienne, ils ne doivent pas franchir les portes, ils ne doivent pas entrer dans la ville.
Au milieu de tous les combattants brillaient 2 d'entre eux, plus valeureux que les autres. L'un était le comte et l'autre l'abbé. Le premier, Eudes, vainqueur jamais vaincu à la guerre, encourageait les hommes fatigués, leur redonnant des forces et tournait sans cesse autour de la tour de guet tuant des ennemis.
Préparez l'huile !
Sur ceux qui veulent faire tomber le mur par une machine de sable, il fait envoyer de l'huile, de la cire et de la poix. Bouillant mélange liquéfié sur le feu. Elle brûle les cheveux sur la nuque des Danois et les dresse. Elles en tuent certains. Elle les envoie faire un tour dans les bas-fonds du fleuve. Et pendant ce temps, les nôtres criaient « Vous sentez le roussi, vite, à la Seine, que l'eau vous rafraîchisse le crin et vous recoiffe !» Le valeureux Eudes en frappa un grand nom. «
Daniel Königsberg qui lisait cet extrait du texte d'Abon sur le siège de Paris avec la série Viking. Dites-nous, Bruno Dumézil, j'ai toujours entendu dire que c'était complètement fantasmé, de l'huile jetée sur les assiégeants, et on l'entend ici dans ce texte, enfin, de l'huile de la poix.
Ah oui, mais vous avez raison, c'est totalement fantasmé. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a été le témoin du siège, mais qui a lu dans les épopées antiques qu'on lançait de l'huile sur les assiégés, et donc il y a de l'huile. Alors parfois il y a des choses bizarres, il y a des machines de siège qui n'existent pas mais qu'il a lu dans la poésie antique et donc ils vont apparaître. Donc oui, c'est très complexe ce texte et je remercie encore ma collègue Edimie Rouquette de l'avoir traduit parce qu'en plus c'est terriblement dur à comprendre. Hein, parce que Abon ne dira jamais de l'huile bouillante tombe et les gens vont dans l'eau. Il va dire Vulcain chuoit et Neptune apparaît. Parce qu'il y a en permanence des métaphores qui vont être prises à la poésie antique. Alors c'est un peu décevant pour le lecteur, hein, parce qu'on aimerait avoir Thor, Odin, des haches. Eh ben non, on aura des béliers et de l'huile bouillante. Voilà. C'est comme ça.
C'est comme ça. Bah oui, non, mais quelle drôle d'idée de gâcher de l'huile, alors que de l'eau déjà bouillante, c'est pas mal.
Déjà, faire chauffer, ça pose un problème, bah ouais, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de bois, généralement, au moment d'un siège à l'intérieur.
Comment il se termine, ce siège ?
Ben, il se termine bizarrement. Après un an de siège, à l'automne 886, des renforts arrivent enfin du centre de l'Empire carolingien, de Germanie. Alors ils arrivent progressivement. D'abord, un comte arrive de Franconie, se fait tuer. Et puis enfin, l'empereur, qui était en Italie, passe par la Germanie, arrive. Et Charles le Gros apparaît sur les hauteurs de Montmartre. Estime qu'il y a quand même beaucoup de vikings qu'on risque de prendre de mauvais coups. Et puis que finalement les vikings, on pourrait peut-être s'en servir parce qu'il est en délicatesse avec les aristocrates de Bourgogne. Et donc il va payer les vikings en leur disant bah, « écoutez, c'est bon, vous levez le siège et puis vous avez le droit d'aller piller la Bourgogne ». Alors ça ne sera pas tellement apprécié par la noblesse franque, d'autant que le résultat n'est pas totalement probant. Les vikings vont revenir et il y aura un deuxième siège et même un troisième siège de Paris qui vont avoir lieu dans les mois qui vont suivre. Mais ça montre cette pratique de la négociation. Tout le monde se connaît. Et Abon note, bah finalement, à un moment, on était réconciliés. Et les vikings sont rentrés dans la muraille de Paris et ont acheté des provisions sur les marchés de Paris. Alors ça, c'est surprenant pour nous. Ça veut dire que tout le monde se connaît un peu et qu'il n'y a pas d'inimitié inconciliable avec une résolution du conflit par la négociation. Bah, on n'est pas très loin de l'époque de la fondation de la Normandie. Hein. Ce qui montre qu'on est prêt déjà à céder des choses aux vikings.
911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, et ça y est, la Normandie, mais là c'est d'autres bandes vikings, c'est relou, mais c'est un peu ce système-là, c'est des bandes qui s'allient à un moment, qui peuvent après se combattre.
Voilà, qui s'allient, qui n'ont plus beaucoup de contacts directs avec la Scandinavie aussi, ce sont des franco-vikings qui sont là sur plusieurs dizaines d'années, qui font du vilain, il ne s'agit pas du tout de résoudre cette histoire en disant que bon, c'est une petite chamaillerie entre baigneurs, comme disait Astérix dans Astérix chez les Normands. Non, il y a vraiment une violence très lourde. Il y a aussi des prises d'esclaves, et ça doit être terrible pour les populations locales. Pensez que les fondations en France s'appellent Taillebourg, le port viking sur la Charente. Taillebourg, ça veut dire Trelleborg, c'est le camp des esclaves, c'est là où on rassemble des esclaves. Et en même temps, les grands se connaissent. Et entre rois vikings et comtes parisiens, on est capable de discuter, parfois de temps s'entendre, et puis... les descendants d'Eudes, qu'on appellera les Capétiens, et les peut-être descendants de Siegfried, le chef viking, que l'on appellera les ducs de Normandie, deviendront les plus grands alliés du monde à la fin du Xe siècle.
Et puis là, vous donnez la réponse au suspense, Bruno Dumézil, que vous avez su créer sur les rivalités dans l'aristocratie du monde franc. Et c'est les Robertiens qui le remportent, cette histoire-là, au bout du compte, parce que c'est de là que naissent les Capétiens.
Oui, mais alors, victoire au point quand même, parce que les Robertiens vont prendre le trône, mais le perdre en 898 parce que Eudes n'a pas d'enfant et le pouvoir revient aux Carolingiens. Un Carolingien prend le pouvoir qui est Charles le Simple, mais le perd parce qu'un Robertien qui est Robert Ier prend le pouvoir. Puis après, on a un cousin qui n'est ni Robertien ni Carolingien et donc on a une alternance dynastique pendant tout le Xe siècle. Et puis, à terme, les Robertiens vont prendre le pouvoir. Et lorsque le dernier Robertien réussit à chasser le dernier Carolingien, bien les Robertiens vont changer de nom, on les appellera les Capétiens. Donc oui, effectivement, le siège de Paris sera important, mais surtout sur la longue durée. C'est surtout les descendants ultimes des Capétiens, les rois Bourbon du XIXe siècle, notamment un certain Louis-Philippe, qui va beaucoup dire de bien d'Eudes en disant « Regardez, mon ancêtre a défendu Paris, tout comme moi j'ai défendu la France à Valmy ».
Et donc, on arrive au 19e siècle et on comprend pourquoi ce siège de Paris, là, celui de 885, l'emporte sur les autres. Parce qu'il y a sans doute Abon, ce moine contemporain qui a écrit, mais vous nous l'avez dit, c'est pas un texte qui a été très diffusé, c'est qu'au 19e siècle, par le roi Louis-Philippe, il y a la volonté de mettre en avant ce moment particulier de l'histoire.
Et oui, Louis-Philippe a un début de règne difficile. En 831, il a un peu laissé piller l'évêché de Paris. Bon, c'est des choses qu'il faut faire oublier quand on construit un musée à Versailles pour toutes les gloires de la France. Ben, il fait faire un grand tableau représentant Eudes défendant Paris et défendant la cathédrale de Paris, ce que lui n'a pas vraiment fait. Et puis, évidemment, le siège de Paris, ce nom même de siège de Paris, a une résonance terrible en 1870. Et donc, au moment où la Prusse attaque, là, on va à nouveau parler en disant, regardez, il y a 12 preux qui sont morts autrefois, tout comme on s'est battu. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on réfléchit encore beaucoup. La première traduction d'Abon, elle est faite en 1942 par un résistant, Henri Vaquet, qui réussit sous le manteau à faire publier la traduction du siège de Paris d'Abon. Évidemment, en 1942, ça parle de tout à fait autre chose. Et donc, oui, l'histoire de France va utiliser à plusieurs reprises, mais pas que l'histoire de France. Pensez aujourd'hui à la culture viking. On parle de vikings partout dans le monde anglo-saxon. Or, il y a très peu de textes. Or là, il y a des milliers de vers qui nous parlent de vikings. Et donc, si vous regardez un jeu vidéo comme Assassin's Creed Valhalla, va avoir une extension, siège de Paris. Vous pouvez jouer le siège de Paris. Abon de Saint-Germain-des-Prés aurait été sans doute ravi. C'est pas vraiment historique, mais son poème non plus n'est pas très historique. C'est très beau, c'est un peu clinquant, c'est toute l'épopée carolingienne.
Et puis c'est un scénario idéal pour une série, et la série Viking, on voit bien au moment du siège de Paris, s'inspire beaucoup aussi de ce texte.
Et oui, parce que la série Viking, c'est l'histoire du fameux Lodbrok dont on avait parlé, Ragnar Lodbrok, Ragnar au Prévelu, qui est quand même censé avoir vécu un petit peu plus tôt, hein, plutôt dans les années 840. Bon, c'est pas grave, comme on sait rien sur les premiers sièges de Paris, on va mettre cette histoire-là, la compléter. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un imaginaire qui est intéressant. Il y a des fortifications, il y a des attaques, il y a des gens que Abon appelle miles, milites au pluriel. C'est des guerriers, mais le terme, quelques années plus tard, il désigne les chevaliers. Et donc, on est dans cette période où c'est encore des vikings et déjà des chevaliers. Et donc, évidemment, pour toute la fantasy, c'est fantastique. On a des variations où les dragons commencent à attaquer le siège de Paris. On serait pratiquement dans Game of Thrones.
Ah, merci vivement, Bruno Dumézil, d'être venu nous raconter ce siège de Paris de 885 avec les conseils de lecture évidents, parce qu'avec vous, c'est pratique. On commence avec l'Empire mérovingien, comme ça on fait le 5e, 7e siècle, c'est publié chez Passé Composé. On poursuit avec votre Charlemagne, comme ça on est chez les Carolingiens, aux Presses universitaires de France. Et puis pour le siège de Paris, eh bien, il y a ce siège de Paris par les Vikings, ce texte d'Abon que vous avez préfacé, et je le rappelle, une traduction d'Enimi Rouquette. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup de m'y avoir invité.
Cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Chloé Rouillon et Mayo Nguizhou. Le cours de l'histoire, écoutez, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.